7h16 minutes, vous êtes à Boulevard 102.1. Il y a quoi que ce soit, ça passe toujours par la même place, le 88-971-102. Un texto. Pour ceux qui se demandent, Denis Gravel sera de retour lundi prochain, absent jusqu'à la fin de la semaine. Véro Bergeron qui reste là, évidemment. Nathan Meilleur qui s'ajoute à l'équipe, jusqu'à demain 18h. Et on a un dernier invité aujourd'hui, puis je voulais vraiment prendre le temps qu'on jase avec lui parce que la fermeture du PEC, du programme de l'expérience québécoise, a fait beaucoup de bruit au Québec au cours des derniers mois. Plusieurs immigrants qui ont dénoncé le fait que les règles changeaient en cours de route. D'ailleurs, hier, juste vous donner les plus récentes nouvelles, là, au lendemain de sa nomination, le ministre de l'Immigration, François Bonnardel, qui veut se mettre rapidement au travail là, afin de rouvrir le programme de l'expérience québécoise. Mais c'est beaucoup de back and forth pour les gens qui sont impliqués. C'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de tout court.
Puis surtout qu'il n'y a pas juste une date fatidique. Il y a des gens pour qui c'est déjà trop tard.
Absolument.
Ils sont déjà repartis, qu'eux autres, leur expérience québécoise, elle s'est mal terminée.
Exactement. Puis c'est plate parce que, tu sais, c'est des gens dont on a besoin. Souvent, ça, c'est quelque chose qu'on oublie de dire, mais quand on parle d'immigration, il y a beaucoup, beaucoup de gens que nous, on va chercher pour nous aider à combler des postes qu'on n'est pas capable de combler.
Souvenez-vous qu'à Québec, on est pratiquement dans le plein emploi, on est dans le trouble.
C'est fou, là.
Il manque de monde, puis il y a des gens qui vont être renvoyer du pays, mais ça, c'est des emplois qu'on ne sera même pas capable de combler parce qu'on n'a pas assez de monde.
Et parce qu'on ne tient pas des promesses qu'on a faites aussi.
Exactement. Mmh.
Donc, dans le contexte, on reçoit dans le show Grégory Gatt, 33 ans marié, 2 enfants, 8 ans et 4 ans, qui ont maintenant le bel accent de notre province. Mmh. Et il va devoir nous quitter dû à la fermeture du PEC qui a été annoncée en novembre dernier. Il y a déjà un de ses collègues qui a dû prendre l'avion le 19 avril dernier. C'est un agent correctionnel, bref, qui va se faire mettre dehors, justement, dû à l'immigration. Grégory, bienvenue à Boulevard.
Merci de me recevoir. Bonjour à tous.
Écoute, j'ai envie de commencer par te laisser la place pour te présenter tout simplement. T'es arrivé au Québec quand, dans quel contexte?
Je suis un ancien fonctionnaire de police en exercice sur la région parisienne. Et je suis arrivé avec ma femme et mes enfants en juillet 2024 dans le but justement de pouvoir permettre à nos enfants d'avoir une nouvelle vie puis de grandir dans un pays qui est aussi beau que le Québec, en fait, parce que
mine de rien, l'avais-tu déjà dans l'œil? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le Québec et Québec en particulier?
Ça fait une dizaine d'années que je voulais partir mais que j'avais pas le courage de le faire parce que c'est un gros move.
Mais oui.
Et ma femme était partie plusieurs fois au Canada, notamment au Québec, à plusieurs reprises, tu sais, en vacances. Et quand on a eu l'opportunité de se poser la question, on s'est dit soit on le fait, soit on le fait pas. Et on s'est dit si on le fait, c'est maintenant qu'on le fait parce que les enfants sont petits. C'est facile pour eux de s'adapter.
Mm-hmm. Puis, s'intégrer puis faire leur vie ici.
C'est ça, on a pris la décision en moins d'un an et on a fait nos valises, on est parti.
De ce que je comprends, là, tu es venu ici avec un plan clair à la base, puis c'est que les règles ont changé après ton arrivée.
Ça a été une catastrophe. On a commencé à faire nos papiers et que déjà je sentais le virage tourner. On est quand même parti parce qu'on s'est dit on a commencé à tout vendre, on va pas s'arrêter là. Et ma femme a repris ses études, c'est pour ça qu'on partait, parce qu'il y avait le PEC avec le volet étudiant et elle devait faire son DEP secrétariat et une ASP à la suite. Pendant ce temps-là, moi je travaillais pour qu'au moins on ait un salaire, tu sais, qui arrive à la maison. Et puis au moment où elle avait fini ses études, on avait le PEC, moi j'enchaînais avec sa demande, et puis comme on est mariés, tu sais, depuis quelques années maintenant, ça nous permettait d'avoir les papiers. Tout était planifié sur le temps. Entre-temps, ils ont gelé le programme très vite. Et puis, le problème des finances, il est toujours réel. Puis lui, on ne peut pas le geler. Malheureusement...
Puis là, ce que je comprends, c'est que même si le processus est enclenché, quand on gèle le programme, tout arrête d'un coup pour vous aussi. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un communique avec vous. Vous puissiez communiquer avec quelqu'un en disant « C'est correct, vous avez déjà entamé le processus. On voit que les démarches sont déjà entamées. Fait que paniquez pas. Il va y avoir une solution ou une avenue proposée pour ça. Tout s'arrête complètement. »
Tout s'arrête parce qu'on a une date de permis qui commence, qui, elle, n'est pas gelée. Puis ce permis-là, il continue à courir. Moi, le mien s'arrête le 1er juillet. Admettons que je continue à travailler pour le service correctionnel le 2 juillet. Je deviens travailleur illégal. Et si je ne quitte pas le pays, ils seront en droit de me mettre en détention, ce qui serait risible parce que ce seraient mes collègues qui m'encadreraient.
Ce serait weird.
Oh mon Dieu, il y a une petite ironie vrai, ici. Hein?
C'est ridicule.
Puis là, toi, ton plan initial, c'était quoi, mettons?
Mon plan initial, c'était que ma femme fasse son DEP, qu'à la suite de son DEP, elle puisse faire son ASP. Tout ça... pendant ma période où je pouvais travailler, elle enchaînait après avec sa démarche avec le PEC. Et dans les 6 à 8 mois qui suivaient, on avait les papiers. Moi, même si j'avais, par exemple, une perte de statut, entre guillemets, j'aurais fait un statut visiteur. puis le problème était résolu, en fait. On aurait eu les papiers, on n'aurait pas eu une grosse perte de salaire. Là, le problème, c'est qu'ils ont gelé le PEC et on ne savait pas s'ils allaient les remettre ou pas. Mmh. Donc, on a pris des décisions en fonction de ce qu'il y avait au niveau de l'actualité. Donc, ma femme, elle, a repris ses études avant de faire son ASP, ce qui fait que là, maintenant, elle n'est plus éligible au PEC. Puis moi, je vais reprendre mes études à partir de septembre, là, dans la soudure, parce que c'est un métier qui est en recherche, que ce soit au fédéral ou à Québec. Donc, dans tous les cas, je vais devoir quitter mon emploi dans lequel je suis intégré, parce que j'ai eu ma période de probation le 11 mars, on m'a félicité, pour repartir dans un nouveau métier dans lequel ma spécialité n'est pas... Tu sais, j'ai 10 ans dans la sécurité publique.
Mais là, en faisant ça, ça va vous permettre de demeurer ici?
Ben, ça me permet de prolonger ma date de permis. C'est-à-dire en gros, change de statut pour devenir étudiant, pour une fois avoir mon diplôme, demander un post-diplôme, en fait, qui me permettra de rester 3 ans.
Alors que tu pourrais être un actif, tu pourrais payer de l'impôt, tu pourrais dépenser avec ton salaire, tu vas te retrouver dans un statut d'étudiant.
Ben, c'est surtout,
c'est donc ben niaiseux.
Surtout qu'en plus, là où c'est vachement niaiseux, c'est qu'on fait porter le chapeau aux immigrants en disant que ils coûtent à la société, que ça représente... tu sais, c'est des gens qui abusent. Sauf que là où c'est encore plus niaiseux, c'est qu'avec mon collègue, on n'a même pas la RAMQ. On est obligé de prendre nos assurances santé privées parce qu'on n'est pas éligible à la RAMQ, on n'a droit à aucune aide. Et je travaille dans un métier où le risque de blessure est quand même bien plus important que si je travaillais en boulangerie.
Mais ouais, c'est... soudure, le risque de blessure va quand même être là, va être présent aussi. Puis là, de ce que je comprends, c'est que la soudure, c'est vraiment juste une visée parce qu'il y a de la recherche, parce que le taux de placement est intéressant. C'est pas quelque chose qui t'intéressait, soudure.
Tu sais, ça reste un métier qui, si t'intéresse pas, c'est difficile de s'épanouir là-dedans. C'est obligé de m'intéresser. Je suis quelqu'un de manuel, tu sais. J'ai toujours rêvé bricoler de mes mains. Bon, là, ça me permettra d'avoir un métier... dans lequel je vais pouvoir essayer de m'épanouir.
Mais tu as déjà un métier.
Oui, c'est ça.
Mais un métier qui est en demande, où ils ont de la misère à faire du recrutement.
Oui. Des agents, en ce moment, au Québec, moi, ce que je trouve le plus épais, je vais même utiliser épais au lieu de niaiseux, c'est le fait que ça a coûté énormément de sous, d'investissement, probablement, te former tes collègues qui sont renvoyés chez eux. On manque de monde, il va falloir reformer des gens et donc dépenser à nouveau, avec notre argent en passant. Puis c'est pas que ça, là, tu fais un nouveau DEP à partir de septembre, c'est des sous qui vont coûter aussi au gouvernement. Il y a un accord France-Québec, là. Mais quand même, tu sais, là, ça, c'est ton cas à toi. Je peux même pas calculer ce que ça représente en frais d'argent. Énorme. Mais ça, c'est pour une personne, imaginons maintenant.
C'est la formation d'un agent correctionnel. J'ai eu la source de ma hiérarchie, mais je ne citerai pas de nom. Ça représente une formation d'un agent, 38 000 $
à peu près.
Et dans le réseau, jusqu'à dimanche dernier, jusqu'à ce que mon collègue Samir parte, on était 38. Tu sais, le calcul, il est vite fait. Ça représente un peu plus $1 million qui partent en fumée juste parce qu'on a un ministère qui n'est pas capable de travailler pour nous faire un prolongement de permis.
Ça, c'est déjà que les gouvernements ne soient pas à l'écoute des employeurs, puis ils sont plusieurs à être sortis au courant des derniers mois. Il y a eu des maires qui sont sortis en disant « ça n'a pas de bon sens, c'est une force vive qu'on est en train de perdre ». Le ministère de la Sécurité publique n'est pas foutu de parler au ministère de l'Immigration. C'est carrément ça, là.
Mais là où c'est encore plus hallucinant, c'est que mon collègue, son dernier jour travaillé officiellement, ça a été le 29 mars. Donc le lendemain, il n'avait plus le droit de travailler, il était illégal. Et comme lui, il avait réussi les tests, c'est ce qu'on appelle l'ESU, en fait. C'est une unité d'intervention d'urgence.
En milieu carcéral.
C'est une très belle unité. Il avait passé les tests, il les avait eus. Là où on voit que c'est complètement déconnecté, c'est qu'il n'avait plus le droit de travailler, qu'on l'attendait, il n'y a même pas 2 semaines, là, à la formation, alors qu'il n'avait plus le droit officiellement de travailler.
À quel point ça ne communique pas, hein?
Et un, ça ne communique pas. Deux, ça démontre le besoin qu'on a au niveau opérationnel, parce que pas plus tard que lundi, on m'a réquisitionné pour faire un chiffre de 8 heures en plus, parce qu'il n'y avait pas l'effectif. Et moi, je ne peux pas entendre être réquisitionné quand on se permet de
on va te
même
dehors.
Pas mettre dehors, parce qu'ils n'ont pas mis dehors officiellement. C'est pas, ils ne l'ont pas congédié, ce n'est pas une démission parce qu'il n'est pas parti de lui-même. Il est juste parti parce qu'il n'avait plus le droit de travailler. Et on se retrouve avec, entre lundi et dimanche dernier, 7 collègues qui se sont fait, entre guillemets, geler chez nous, ce qu'on appelle du temps supplémentaire obligatoire dans le langage plus commun, pour compenser une perte d'effectifs qu'on pourrait éviter.
Alors qu'on pouvait lire ce matin dans Le Soleil, je vous le rappelle, qu'il y a un détenu qui a été défiguré dans une soirée qui a été mouvementée dans la prison de Québec. Puis c'est le syndicat qui a levé la main en disant qu'il y avait un manque de personnel. Ça a été beaucoup plus long avant qu'on puisse agir, mais il y a des agents correctionnels qui ont probablement sauvé deux vies. Tout ça parce qu'on soupçonne qu'un des deux détenus était intoxiqué parce qu'il y a eu du cristal meth qui serait rentré dans les murs de la prison. Fait que
encore une fois,
comme une réaction.
Voulez-vous d'autres des détails qui confirment qu'on manque de personnel, puis encore plus dans le milieu carcéral parce qu'on en parle depuis des mois?
Là, on a une nouvelle première ministre. On a un nouveau ministre de l'Immigration, François Bonnardel. Ça donne aussi que le ministre de la Sécurité publique est aussi maintenant vice-premier ministre. As-tu espoir que ton message se rende? Puis pas juste pour toi. Tu as donné l'exemple de certains de tes collègues, mais à Québec, il y en a combien? Des gens qui se retrouvent dans une situation comme celle-là où ils ont un emploi, sont intégrés, ils payent de l'impôt, ils dépendent dans la ville de Québec. Puis parce que du côté du provincial, on essaie de pousser ça dans le cours du fédéral, puis on se retrouve avec des gens qui vont devoir faire leur valise.
Ben, moi, j'espère, parce que moi, le ministre m'a écrit personnellement en disant qu'il avait saisi son état-major dans la gestion de nos deux cas. Et il avait écrit ça début février. On est arrivé fin mars, il n'y a toujours pas d'évolution. On nous a répondu que c'est la vie, qu'ils ont saisi apparemment l'ensemble du ministère dans nos deux cas qui sont individuels, sauf qu'on n'est plus sûr d'individuel quand ça concerne 38 personnes. Que c'est de trouver une solution sur du court terme, apparemment, c'est compliqué, alors que moi, le problème, je l'ai signalé en janvier 2025, donc ça commence à faire un bout.
Ouais,
et je l'ai signalé par écrit, par mail, directement au recrutement, en disant que ça allait poser problème à un moment donné. Donc, mis à part un manque de considération de la part du ministère envers les agents qui nous considèrent, enfin, le ministère aujourd'hui nous considère non pas comme des agents de la paix, mais comme des agents de bureau, je trouve qu'à un moment donné, ça pose problème, parce que si on était juste des agents de bureau, ben, peut-être que la liste de recrutement serait plus longue que celle qu'on a aujourd'hui.
Puis, là, on parle de votre milieu, milieu carcéral, mais je veux dire, c'est dans tous les milieux.
C'est général.
C'est complètement généralisé. Là, légalement, tu peux travailler jusqu'à quand?
Moi, je peux travailler jusqu'au 1er juillet au soir, en fait.
Après ça,
je bascule en statut visiteur, le temps de rebasculer en permis d'études. Et puis, là, pendant mon permis d'études, j'aurai le droit de travailler un 24 heures semaine.
Oh, OK. Ça va être difficile de payer la vie quotidienne, ça?
On a tourné avec un salaire. On retournera encore avec un salaire.
Mais mon Dieu Seigneur. Puis éventuellement, le but, j'imagine, c'est d'être permanent.
Ben, on l'espère, tu sais. C'est quand même un gros effort qu'on fait. Moi, on m'explique l'immigration, il faut s'intégrer. Ce que je valide parce que je suis complètement d'accord avec ça. On a changé de pays. Moi, j'ai pas envie de revivre avec mes habitudes de français. Je suis venu au Québec, c'est pour vivre en tant que Québécois et pas en tant que Français. C'est pour ça que mes enfants, je suis content quand on me dit qu'ils ont l'accent québécois. Je me dis,
l'intégration,
ils sont pas
réussie.
Si mal intégrés.
Ouais. Ouais.
Puis, le grand commence à sacrer. On le reprend un petit peu en lui disant qu'il faut éviter. Mais d'un côté, je me dis, il n'est pas si mal intégré, finalement.
Excuse-moi, Audrey. C'est quoi ta limite?
Y a-t-il un moment donné où tu vas dire c'est assez, parce qu'il y en a qui l'ont fait.
Toi, conjointe, c'est une grosse question, je sais, puis je comprends que vous vous battez, puis je trouve ça honorable, mais
c'est épuisant, maintenant.
Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ta conjointe et toi, si on atteint ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase, puis tant pis, on jette la serviette?
Moi, j'ai une certaine tolérance, justement, dans la difficulté. Ma conjointe est beaucoup plus fragile sur ce côté-là. C'est vrai que ça lui pèse, c'est difficile. On va se l'avouer, c'est source de dispute parce qu'on ne sait pas si on va rester. On sait que si on retourne en France, ça va être compliqué. Et puis, on sait pourquoi on a quitté le pays. Je ne vais pas débattre sur la majorité des sujets sur lesquels y a moyen de débattre, mais on suit un peu l'actualité. On peut comprendre pourquoi on n'a pas envie de rentrer en France. Moi, ici, on se sent bien. J'essaie de me battre pour ça, en ce sens-là. Mais c'est vrai que pour ma conjointe, c'est plus difficile de se dire on va devoir encore serrer la ceinture pendant un temps, en ne sachant pas si demain on aura quand même la résidence permanente, malgré...
Ça va te servir à quelque chose, au final,
c'est ça.
Ou pas?
Est-ce que tous les efforts vont payer? Je ne peux pas le dire.
Les enfants, là-dedans, comment...
Sont-ils au courant?
Une de 8 ans, 4 ans, sinon, ce qu'ils réalisent?
Ils sont au courant, on leur explique que l'immigration, c'est compliqué, mais tu sais, pour eux, l'immigration, c'est quoi? Ils ont leurs copains qui sont à l'école.
Eux sont à la maison, là.
C'est ça, ils sont contents d'être ici. Pour eux, moi, le grand, il a connu l'école française, il a connu l'école québécoise. Quand j'ai commencé à lui dire, peut-être que tu vas devoir retourner à l'école en France, et pas spécialement partant parce qu'il est content d'être ici. Puis non, c'est compliqué à expliquer, tu sais, ça reste que des enfants, et puis j'ai pas envie de le stresser plus qu'il est, parce que c'est pas un sujet qui est très facile à aborder déjà rien que pour les adultes.
Ça me fait mal au cœur, juste sachant en plus qu'on a besoin de vous, tu sais, puis de d'immigrants pour nous aider à compléter tellement de corps d'emploi. Je trouve ça un peu ridicule. J'espère vraiment, tu sais, bon,
on va essayer de s'arranger pour que le message se rende au bon endroit. Là, il y a un nouveau conseil des ministres. Clairement, ces temps-ci, essaie de faire bonne impression, puis dans l'opinion publique, ça peut avoir un impact.
Puis merci de faire ça. On a débuté l'entretien, puis c'est toi qui nous a remercié de te recevoir ici à l'antenne, mais merci de faire ça, puis de te battre, puis de continuer à le faire pour ton ami aussi qui est parti malheureusement le 19 avril. Tu sais, je pense que plus il y a de gens comme toi qui vont se lever, peut-être qu'il y a des gens justement au gouvernement, puis ceux qui tirent les ficelles.
Ils vont voir les aberrations.
Ben, qui vont voir les aberrations, puis qui vont toujours bien comprendre que c'est à des humains qui font vivre ça en ce moment. Là, au-delà de la bureaucratie, c'est des humains à qui on a dit « Venez chez nous, on va vous accueillir à bras ouverts », puis là, finalement, non, on ferme les portes, les fenêtres, puis vous n'avez plus trop de réponses, puis il n'y a plus de communication, puis vous êtes dans une espèce de néant qui est... C'est inhumain, là, être dans un néant comme ça, là, avec des enfants. Je me mets à ta place 2 secondes. J'ai des enfants à peu près du même âge que toi aussi. Je vis la même chose avec ma copine en ce moment. Je trouve ça incroyable, votre courage. Lâchez pas, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Puis en espérant, c'est ça, qu'on soit capable d'amener ça le plus loin possible dans le tordeur, nous autres, pour qu'il y ait des gens que ça shake, puis qui se réveillent quelque part, là, parce que ça... aucun sens faire vivre ça à des gens.
Assure-toi qu'on va faire transférer
je sais que nous, on a rencontré la sous-ministre, Mme Lynn Fortin. C'est elle qui, aujourd'hui, nous a dit qu'elle n'avait pas trouvé de solution. Ce que j'ai du mal à entendre quand on a un déficit d'effectifs qui est énorme, ce que j'ai du mal à entendre quand on a des collègues qui commencent à être tannés d'avoir du temps supplémentaire obligatoire à tous les jours, en sachant que cet été, ça va être l'horreur pour eux, et j'ai beaucoup de peine pour eux. En sachant que quand on en fait des interventions, les collègues ont plus peur des retombées administratives que de prendre des coups.
C'est fou, hein?
Ça commence à être rendu fou. Et puis là, je m'expose pour mes collègues, en sachant que ce que je fais présentement, c'est un bris de confiance envers mon employeur. Et c'est difficile à expliquer, mais je me bats pour continuer à travailler pour mon employeur qui, demain, pourrait me sanctionner pour avoir fait un bris de confiance. C'est spécial, oui.
Grégory Gatt, on te remercie vraiment d'être passé en studio, d'avoir pris le temps de venir nous jaser. Tu es en ce moment agent correctionnel, un de ceux qui va carrément se faire mettre dehors dû à l'immigration. On te souhaite le meilleur.
J'espère que ça bouge en ta faveur.
Oui, tiens-moi au courant. N'hésite pas à nous tenir au courant là, si on peut garder le lien. Puis comme je te dis, on va faire notre possible pour faire passer le message.
Avec plaisir.
Passe une belle soirée.
Merci à vous.
88-971-1021 texto. Vous êtes à Boulevard 102.1. Quand vous avez des histoires comme ça, vous avez envie de parler, le micro, il n'est pas juste à nous. Hein. Il vous sert à vous aussi. Fait que n'hésitez pas à nous écrire autant sur le texto que sur nos